Lars Vorkane.
Gravel dans le retour, ça gagne à être connu.
Okay. Incroyable de voir que ce mois-ci, dans le top des ventes britanniques, Angine de poitrine se retrouve entre Paul McCartney et Harry Styles. Surréaliste, et pourtant, c'est la vérité. Je vous rappelle qu'Angine de poitrine sera à l'émission Later with Jules Holland, qui sera présentée dans deux jours, le 21 juin. Performance qui vraisemblablement sera sur les YouTube de ce monde. C'est des performeurs canadiens qui sont à l'émission de Jules Holland, la meilleure émission de musique qui existe sur la planète. Et c'est Shania Twain qui est l'autre artiste invité. Il y a des photos qui se sont promenées.
Même style.
Un peu surréaliste, effectivement. Des trois artistes avec Shania Twain entre les deux frères de poitrine, ce qui est quand même assez particulier. Parlant de trucs particuliers, et là, on va tomber dans une histoire un peu plus dramatique.
Plus sordide, ouais.
Une histoire qui traîne devant les tribunaux depuis 7 ans.
En fait, ça a été long avant qu'on soit en mesure de l'amener devant les tribunaux.
Exact.
Puis, Judith pourra nous donner les détails, mais Diana Torres Acosta, qui a finalement été déclarée coupable de l'homicide involontaire d'une fillette de 13 mois qu'elle avait à sa garderie en milieu familial.
Elle est journaliste judiciaire au Soleil. On s'en va rejoindre Judith Demel. Salut, Judith.
Allô?
Pourquoi ça a été si long que ça, réussir à amener cette histoire-là en cours?
Tu l'as dit, là, ça fait 7 ans que tout ça dure, puis on a vraiment senti un soulagement aujourd'hui. Là. C'est un drame qui dure depuis tellement longtemps pour cette famille-là. Et aujourd'hui, la gardienne est finalement coupable. Donc, ça a été long parce que c'était de la preuve circonstancielle au départ, cette enquête-là. Donc, on a fait une grosse opération d'infiltration Mr. Big pour coincer la gardienne. Donc, c'est pas parce que ça a traîné, là, c'est plus parce que les procédures ont tellement été longues. Parce qu'une fois que tu fais le Mr. Big, là, après, tu ramasses toute la preuve, tu écoutes toutes les vidéos, après, tu accuses. Puis là, après, il faut que le Mr. Big, l'opération d'infiltration que les policiers ont mis en branle, faut qu'elle soit acceptée en preuve par le tribunal. Donc, on a une espèce de premier petit procès qu'on fait entourant le travail des policiers, puis ensuite, on fait le vrai procès entourant le fond de l'affaire. Donc, ça a vraiment été long, puis là, on en arrive à un verdict aujourd'hui.
Au niveau des faits et du factuel, pourquoi on a eu besoin d'aller vers un scénario Mr. Big pour inculper la gardienne qui a secoué l'enfant?
Pour rappeler le petit topo, là, puis tu l'as dit, c'est une histoire vraiment déchirante. Donc, je vais la raconter le plus rapidement possible pour pas trop passer du temps là-dessus. C'est... Une fillette de 13 mois qui, finalement, là, à l'été 2019, sa mère est prête à l'envoyer à la garderie. C'est une mère qui s'est décrite comme protectrice énormément de son bébé. Donc, c'est pour ça que ça a été long avant qu'elle fasse confiance à quelqu'un d'autre pour la garde de sa fille. Donc, il y a eu des communications qui commencent avec Diana Torres Acosta, qui, elle, a une garderie chez elle dans son appartement de Limoilou. Puis, finalement, ils signent le contrat et la petite victime commence à fréquenter graduellement la garderie. Ce qui a été mis en preuve, c'est que dans les 2 semaines avant le drame, la victime perturbe un petit peu le quotidien de la garderie. Ça vient brusquer un petit peu l'horaire de Diana Torres Acosta, qui était habituée avec les autres enfants déjà sous sa garde. Donc, on sent qu'il y a une petite irritation de sa part. Il y a eu des communications avec la mère, justement, pour que la mère vienne la porter d'avance, qu'elle arrête de venir la chercher à tout moment, qu'elle arrête de l'allaiter. Bref, ils ont eu des communications comme ça. Puis la mère avait senti, justement, elle était comme un peu tannée là, de cette irritation-là, puis elle s'était dit « Bon, on va essayer encore quelques jours, puis après, si ça marche pas, je vais retirer mon enfant de la garderie de Diana. » Donc, le matin du drame, le 17, elle vient porter la fillette à la garderie plus tôt que d'habitude, comme l'avait suggéré Diana, puis elle était en parfaite santé, aucun symptôme anormal, aucune condition spéciale. Elle revient plus tard dans l'après-midi la chercher, puis on a un tout autre enfant. Elle est décrite comme avec le corps rigide, elle n'est pas capable de rester éveillée, elle est comme si elle n'était plus là. C'est comme ça que la mère le décrit, puis elle a vomi aussi durant la journée et avec la mère quand elle est venue la chercher. Donc, ça n'a pas pris de temps que durant la nuit, comme les symptômes ne s'amélioraient pas, sont allés à l'urgence. Puis le lendemain, là, dans les heures suivant son arrivée à l'hôpital, la petite est décédée. Puis les médecins ont comparé la nature de ces lésions à un accident de char à haute vitesse ou à une chute de plusieurs étages.
Mon Dieu.
Puis on a conclu à un épisode de maltraitance qui a entraîné la mort. Ça a été très rapide, puis les policiers ont été appelés sur les lieux là, dès le décès de la petite.
Est-ce qu'on a les détails concernant le scénario, Mr. Big, qu'on a utilisé et est-ce qu'on a eu les aveux complets de la gardienne?
C'est qu'après la mort, les médecins ont dit aux policiers, c'est sûr que les lésions ont été commises dans les 24 heures avant son arrivée à l'hôpital.
OK.
Donc, il y avait quatre adultes qui avaient été en contact avec cet enfant-là. C'était soit les deux parents, la gardienne et son conjoint.
OK.
Ils ont interrogé ces quatre personnes-là et rapidement, les soupçons se sont dirigés vers la gardienne, évidemment, parce que les parents, bref, ils n'ont pas trouvé d'indice qui aurait pu faire un geste de violence. Puis la gardienne, elle nie tout geste de violence. Elle a dit qu'elle n'avait jamais touché, qu'elle n'avait rien fait. Donc, on n'avait aucune preuve là, tangible. C'était toutes des preuves circonstancielles. On ne pouvait que supposer. Et quand on n'a personne qui avoue, on n'a pas de caméra, on n'a pas d'enregistrement, on n'a pas de texto, on n'a pas rien, ben, qu'est-ce qui reste? C'est la preuve circonstancielle puis les hypothèses. Fait que pour prouver les hypothèses, il faut qu'on aille fouiller. Donc, ce que les policiers ont fait, c'est que plusieurs semaines après le début de l'enquête, ils ont mis sur pied une entreprise fictive. Avec deux personnes qui travaillaient là, qui étaient en fait des policiers, qui sont entrés en contact avec Diana Torres Acosta pour lui proposer du travail parce qu'elle n'avait plus sa garderie. Et tranquillement, ils ont forgé des liens. Donc, ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des jobs évidemment fictifs et évidemment sont devenus amis. Donc, ils ont fait des activités ensemble, sont allés au spa, sont allés au resto pour essayer d'avoir sa confiance. Puis, plusieurs mois plus tard, on a fait le scénario final, comme tu as dit. C'est toujours ça à la fin de Mr. Big. Puis, dans ce scénario-là, on entraîne, on encourage, on pousse un petit peu la suspecte à avouer son crime. On lui dit qu'on va pouvoir l'aider, mais il faut absolument qu'elle dise la vérité. Puis lors de ce scénario final-là, du bout des lèvres, de Diana Torres Acosta a comme dit qu'elle avait secoué la petite en jouant avec elle. Puis elle a imité le geste avec l'oreiller. C'était pas tout à fait ce qu'on pense qui est arrivé, parce que je rappelle que pour causer la mort, il faut que le secouage soit violent,
C'était pas en
mais
jouant vraisemblablement, puis c'était fait d'une
non.
façon pas mal plus délibérée. C'est un semi-aveu
Exact.
dans le fond, là, c'est.
Exact. Mais comme elle avoue un peu, les experts sont d'avis que si tu avoues un peu ça veut dire que tu le fais parce que tu peux pas avouer ça si tu n'as pas une idée de. Donc, ça reste de même. Ensuite, elle est accusée et puis là, les procédures judiciaires sont déclenchées. Puis, dans le jugement aujourd'hui, elle a été déclarée coupable parce qu'on a dit qu'elle était invraisemblable, que sa version était invraisemblable au procès, puis qu'elle avait menti, puis qu'elle avait omis plusieurs éléments, là. Puis je vous donne rapidement un exemple. Au procès, elle a dit qu'elle s'est sentie forcée d'avouer pendant le Mr. Big parce qu'elle disait que ses enfants étaient il disait que ses enfants étaient en danger, que son mari était en danger. Donc, elle s'est sentie forcée de le faire, puis elle a menti, puis elle est allée contre ses valeurs en inventant une histoire pour avoir la paix. C'est un peu ça qu'elle a dit. La juge a complètement balayé cette explication-là en disant que c'était pas logique, que les policiers avaient jamais menacé les enfants, bref, elle retenait pas ça. Puis ensuite, elle a surtout dit que quand la petite est arrivée chez elle le matin du drame, elle était déjà en mauvais état. Donc, elle a changé un peu sa version, elle a laissé sous-entendre que les parents avaient pu faire le geste de violence. Et pourtant, elle n'avait jamais dit ça aux policiers la première fois qu'elle s'est fait rencontrer. Elle n'a jamais dit ça à l'hôpital quand on lui a demandé comment la petite allait le matin. C'est comme si elle était arrivée avec ça pendant le procès parce qu'on lui avait dit que c'était soit elle ou soit les parents. Donc, c'est comme si elle avait laissé entendre que c'était peut-être les parents, donc ça ne pouvait pas être complètement elle, donc il y avait un doute raisonnable. Puis ça, la juge a tassé ça en disant que les parents, elle a les entendus, puis que c'était les parents les plus aimants qui ne pouvaient pas avoir, puis que c'était impossible que ça soit eux, puis qu'elle, elle avait déjà mis sa crédibilité en jeu sur plusieurs autres facteurs, et donc elle n'a pas été crue une seule seconde par la juge.
Judith, une accusée comme ça au palais de justice qui change sa version, j'imagine que la dame était assez agitée et défensive, entre autres quand le verdict est rentré, ou tu as d'autres choses à nous dire par rapport à son attitude?
L'attitude de Diana Torres Acosta durant tout le procès était spéciale. Parce que là, on parle d'un enfant qui a perdu la vie, puis tu le dis souvent, Denis, c'est ce qui nous touche le plus, là. C'est difficile pour tout le monde de rester impartial, mais elle n'a pas montré d'attitude durant tout le procès. Puis je te dirais que c'était la même attitude aujourd'hui. Malgré le verdict, on n'a pas senti là, de réaction particulière. Puis c'est qu'on ne ressent pas non plus de remords. Puis là, je te dis ça, c'est ma perception. Mais c'est choquant un petit peu de voir comment elle agit. Puis ensuite, dans les corridors, elle est très, très motivée à ne pas se faire filmer par les caméras. Elle reste derrière des murs, derrière des colonnes. Elle se cache avec son manteau, là, jusqu'à la... Bref, à chaque minute qu'elle est au palais de justice, là. Alors qu'on a déjà des photos d'elle et des vidéos de tout le Mr. Big. Donc, c'est vraiment... C'est ça, je pense que c'est très dur, puis surtout quand les parents de la victime sont là, eux, puis que eux, évidemment, l'émotion là est au plus haut.
J'imagine, ils ont été là pour toutes les procédures au palais de justice.
Non, ils ont juste été là quand ils ont témoigné, puis sinon ils ont suivi à distance parce que c'était trop dur pour eux. Puis
Comprends.
peut-être une petite nouvelle là, de positif, là, de ben, positif. Depuis les procédures, ils ont eu un autre enfant et donc ils ont pu se rebâtir une famille là. Évidemment, ça efface pas le drame, là, mais...
Des gens qui avaient déjà de la misère à faire confiance au départ, tu sais, au début de l'histoire, imagine-toi, là, à ce stade-ci, c'est incroyable.
Elle a dit pendant le procès que son nouvel enfant, c'était assez dur d'envisager de l'envoyer à la garderie.
Je comprends donc. Là, la dame s'en va immédiatement en prison, Judith.
On a demandé la détention immédiate au début, dès le verdict annoncé. Ça, c'est une procédure qui existe, là, dans ce temps-là. C'est la juge qui décide si le crime est assez grave et s'il y a des risques pour la société. Elle peut décider de tout de suite envoyer Diana Torres-Acosta en prison, étant donné qu'elle risque déjà une longue peine de prison. Par contre, lors du dîner, il y a eu des discussions avec la défense et la poursuite. Et puis, selon des informations qui n'ont pas été divulguées à la cour, la poursuite a accepté de renoncer à sa demande. Toutefois, elle a ajouté de sévères conditions de remise en liberté. Donc, Diana Torres-Acosta va pouvoir demeurer chez elle et en liberté, mais elle subit de lourdes conditions.
C'est quoi les chefs d'accusation pour lesquels elle est coupable, ces meurtres?
C'est homicide involontaire.
Homicide involontaire. C'est les peines, ça va jouer dans quoi à peu près?
C'est vraiment large. Ça
Ouais,
va de 0 à 20, de 0 à 25, je te dirais.
hein? OK. Fait qu'on verra pour
C'est
la.
vraiment la juge qui va déterminer la gravité.
OK. On verra pour la suite des choses. On te laisse aller, Judith. Merci. Bonne fin de semaine.
Merci à vous deux. Bye.
Bye-bye. Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil sur cette triste histoire, une histoire révoltante. Puis on dirait que ça. Ça veut rien dire, mais on dirait que ça rajoute une couche d'injustice que ça parte de parents qui, au départ, ont de la misère à faire confiance pour faire garder leurs enfants. Puis,
Mais c'est un acte de foi de faire garder ses enfants.
Vous avez pas idée.
Puis, tu sais, je pense qu'il y en a qui le diront peut-être pas parce que, tu sais, des fois, si tu as le besoin de retourner sur le marché du travail ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'en dedans de toi, il y a tout le temps une petite voix qui dit « Voyons, Stine, ça n'a pas de bon sens que je laisse mon enfant à des inconnus. » Là.
À la semaine longue.
À la semaine longue. Puis, t'sais, c'est une majorité de personnes qui s'occupent des enfants sont fantastiques. Mais pour des histoires comme celle-là, c'est sûr que ça te trotte dans la tête à un moment donné.
Même dans les meilleures circonstances, avec le meilleur monde, même quand c'est des gens que tu connais,
oui.
T'sais, t'as un stress. Souvent, les enfants ont un stress aussi.
C'est plate ce que je vais dire, là. Puis c'est pas qu'on me comprenne vraiment bien, mais ça peut. J'ai l'impression que ce qui est stressant aussi pour un parent, probablement pour eux de refaire confiance, c'est qu'on dit souvent à quel point ça peut arriver à n'importe qui de perdre patience. T'sais, faut que tu
Dans ma tête, si t'étais dans ce domaine-là,
Ah non, Véro, si
non,
tu savais.
Ah ouais, oh, mon
si
Dieu.
tu savais. C'est une vocation,
J'aurais aimé ça garder
éducateur,
mes
éducatrice
illusions.
en garderie, puis
Non, mais
c'est
même.
plate, mais c'est pas assez serré les conditions
Ouais.
pour ouvrir une garderie en milieu familial. Là.
Même un parent va perdre patience à un
Ouais,
moment
ben
donné, mais
oui.
qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre l'air,
Exactement.
tu te
Tu travailles pas
doses.
là-dedans si tu sais que t'as pas la patience pour,
Exact,
là.
exact. Mais il y en a beaucoup qui vont décider de pas aller chercher de l'aide, alors que tabarnouche, t'es bien mieux d'aller chercher de l'aide
Oui.
que de faire quelque chose que tu vas regretter toute ta vie, d'une façon ou d'une autre. Je suis en train de lire le texte de Judith. On devait la laisser partir pour 16h50. J'ai fait l'impossible pour respecter l'engagement qu'on avait avec elle. Les parents de la victime qui ont éclaté en sanglots après le verdict. L'accusée, elle, n'a pas réagi. Donc, on verra pour la suite des choses quand le verdict sera rendu et que la sentence sera imposée. Il est 16h51, c'est pas mal la grosse nouvelle de la journée en passant. Ça fait 7 ans que le crime est survenu. Puis tu sais, les scénarios du Mr. Big, on a eu des histoires tristes où on n'a pas réussi à faire admettre ça en cours.
C'est pour ça que ça a changé. Tu sais, ce que Judith nous expliquait, que maintenant, tu regardes toute la preuve du Mr. Big pour être certain que quand tu vas arriver à procès, ça ne puisse pas être challengé, que ça ne puisse pas faire tomber... qui est en cours.
Exact. Hey, pour les problèmes sur les routes ou ailleurs, si vous avez des choses à signaler, c'est le 418-971-1021. C'est Gravel dans le retour à Boulevard. Gravel.